France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Xavier Atto, Emmanuel Dupuis et Olivier Dehay. Voici la troisième émission de notre série consacrée au ballet de l'Opéra de Paris, à travers quelques partitions créées dans cette institution maintenant tricinquantenaire, tricentcinquantenaire même, 350 ans de l'Opéra de Paris. Et nous voici en 1846 avec un ballet pantomime créé dans la salle Le Pelletier de l'Opéra de Paris. C'est Paquita, du librettiste Paul Fouché et du maître de ballet Joseph Maziguier, dans une Espagne colorée où dansaient Carlotta Grisi et Lucien Petitpas, sur une musique d'Édouard Deldevé qui a été plus tard augmentée par des partitions de Léon Minkus. Un extrait de Paquita, ici avec l'orchestre de l'Opéra de Sofia dirigé par Boris Spassov.
Thank you.
L'orchestre de l'opéra de Sofia, dirigé par Boris Spassov, dans un extrait de Paquita, ce ballet créé à l'opéra de Paris en 1846 avec une polonaise et une mazurka. Un ballet dansé, je le disais, par Carlotta Grisi et Lucien Petitpas, danseur, grand danseur marseillais d'une grande famille de danseurs, dont le frère cadet était ce Marius Petitpas, légendaire maître de ballet dans la Russie impériale. Marius Petitpas qui fera venir cette Paquita à Saint-Pétersbourg l'année suivante, en 1847, en demandant à Léon Minkus d'étoffer la partition d'Édouard Delevée. Paquita entraîne donc les spectateurs de l'Opéra de Paris dans une Espagne de fantaisie, 30 ans environ avant la création de Carmen de Bizet. Et en 1855, c'est en Sicile que sont invités ces mêmes spectateurs de la salle de Le Pelletier avec la création des Vêpres siciliennes de Giuseppe Verdi sur un livret en langue française d'Eugène Scribe et Charles Duverrier. Verdi obéit à une règle d'or de l'Opéra de Paris en incluant un ballet au troisième acte de son opéra pour les spectateurs, en particulier pour les membres du Jockey Club, pour qu'ils puissent admirer le corps de ballet formé notamment de danseuses entretenues par ces messieurs. Le ballet en question de ces Vêpres siciliennes s'intitule Les Quatre Saisons, et puisqu'il nous reste 3 jours avant l'automne, voici les derniers rayons de l'été.
Thank you.
Une valse de Verdi, voilà, qui n'est pas si fréquent, et c'était une occasion de savourer cette musique méconnue que d'entendre un extrait des Vêpres siciliennes de 1855 avec un extrait du ballet des Quatre Saisons qui a été donc proposé aux spectateurs de l'Opéra de Paris au troisième acte et ici joué par l'orchestre du théâtre de la Scala de Milan dirigé par Riccardo Muti. Demain, nous entendrons une autre contribution de Giuseppe Verdi à ce qu'on appelait la grande boutique de l'Opéra de Paris. Ce sera Don Carlos. Mais pour l'heure, voici une autre valse quasi contemporaine. Elle a été écrite 5 ans après, en tout cas présentée 5 ans après, en 1860 à l'Opéra de Paris. C'est la valse des rayons de Jacques Offenbach dans un ballet intitulé Le Papillon qui a été chorégraphié par Marie Taglioni. Nous avions l'occasion d'évoquer cette immense danseuse qui fut la première sylphide de 1832 et qui faisait danser en 1860 Emma Livry, considérée comme la dernière représentante du ballet romantique, ainsi que par Louis-Alexandre Mérante. C'est la valse des rayons que l'on va entendre dans ce papillon de 1860 avec l'Orchestre Symphonique de Londres dirigé par Richard Bunning. La valse des rayons de Jacques Offenbach, extrait de son ballet Le Papillon, une partition qu'il va utiliser dans d'autres partitions ultérieures. C'est l'Orchestre Symphonique de Londres dirigé par Richard Bonning que nous entendions dans cette partition du bicentenaire Offenbach. Je vous rappelle que nous avons eu l'occasion de célébrer ce frétillant bicentenaire tout au long de l'été dans des émissions à retrouver sur francemusique.fr. Et ce papillon, je le disais, avait été dansé par une grande danseuse, Emma Livry, qui va vivre une effroyable tragédie 2 ans plus tard lors d'une répétition à l'Opéra de Paris pendant la muette de Portici, puisque son tutu de gaz va s'enflammer au contact d'une rampe à gaz et elle sera en quelque sorte presque brûlée vive. Marie Taglioni, que j'évoquais, va l'enduire de graisse à démaquiller pour essayer de la sauver, et ce sera encore pire puisque elle va agoniser pendant plusieurs semaines, cette pauvre Emma Livry. Certaines concurrentes de mauvaise langue parlant d'une nouvelle invention de la danseuse, l'éclairage à la gaz. C'est à l'Opéra de Paris que se déroule l'année suivante, en 1861, l'un des événements les plus célèbres de l'histoire de la musique au XIXe siècle. C'est Tannhäuser de Richard Wagner, la création parisienne de cette partition qui avait connu sa première création en 1845. La princesse Pauline Metternich fait jouer ses relations pour imposer la musique de Richard Wagner à Paris. Wagner se plie à l'injonction de l'Opéra de Paris, selon lequel il faut inclure un ballet dans son opéra, mais il refuse obstinément d'inclure ce ballet au deuxième acte. Pourquoi au deuxième acte? Puisque les membres du Jockey Club dînaient en ville et ne venaient qu'après le premier acte pour assister justement à l'évolution du corps de ballet. Richard Wagner refuse de se plier à cette coutume anti-artistique, et ce sera un grand scandale que cette création de Tannhäuser, sous les yeux et dans les oreilles de Charles Baudelaire par exemple. Tannhäuser, dont voici donc cette version parisienne avec la bacchanale du Venusberg, ici interprétée par la Staatskapelle de Dresde, dirigée par Giuseppe Sinopoli.
Thank you.
L'orchestre de la Staatskapelle de Dresde, dirigé par Giuseppe Sinopoli, interprétait cette bacchanale du Venusberg, ballet rajouté par Richard Wagner au premier acte de son Tannhäuser pour les représentations parisiennes en 1861 à l'Opéra de Paris.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
L'Opéra de Paris, où depuis trois quarts de siècle s'est établie une tradition centrale du corps de ballet, de la compagnie de ballet, c'est le défilé qui montre l'ensemble des danseurs depuis le petit rat jusqu'aux grandes étoiles. Et depuis trois quarts de siècle, ce défilé se fait au son de la marche des Troyens de Hector Berlioz depuis 1947 sur une idée de Serge Liffard, une idée qu'il avait reprise d'ailleurs à Léo Stats, qui avait instauré un premier défilé en 1926, justement au son de Tannhäuser de Richard Wagner qu'on vient d'entendre. Mais bien sûr, en 1947, lorsqu'on reprend cette tradition, la musique de Wagner n'était pas vraiment en odeur de sainteté à Paris. Alors, même si la création partielle des Troyens de Berlioz s'est faite en 1863 au théâtre Lyrique, l'actuel théâtre de la ville, ces Troyens sont quand même liés historiquement à l'Opéra de Paris, de par ce défilé, de par également l'ouverture au grand public de l'Opéra Bastille, qui s'était déroulée en 1990 avec les Troyens de Berlioz, dont voici la marche de l'entrée de la reine avec l'Orchestre Symphonique de Montréal, dirigé par Charles Dutoit.
Thank you.
Ce sont des esclaves nubiennes que l'on entendait chanter là. Après la marche pour l'entrée de la reine, le pas des Almées et la danse des esclaves, extrait d'un ballet inclus au quatrième acte des Troyens de Hector Berlioz et joué ici par l'Orchestre Symphonique de Montréal, dirigé par Charles Dutoit. Vous écoutez France Musique, il est 14h18. Je vous rappelle que cette semaine, nous rendons hommage à quelques grands ballets de l'Opéra de Paris à l'occasion du 350e anniversaire de cette institution qui a suivi les modes, qui a suivi les courants littéraires, notamment la littérature fantastique avec des fantômes et des Willy dans la première partie de ce 19e siècle, qui a suivi également l'hispanomanie avec l'Espagne de Paquita et qui va suivre l'orientalisme, on vient de l'entendre dans cette petite extrait de partition de Berlioz, et on va l'entendre dans La Source, un ballet créé à l'Opéra de Paris en 1866 sur un livret orientalisant de Charles Nuitée, une chorégraphie d'Arthur de Saint-Léon qui permettait de voir le grand danseur Louis Mérante que j'évoquais tout à l'heure dans le papillon. Quant à la partition, mais c'est une partition bicéphale que La Source, avec le premier acte et une moitié du troisième acte composé par Léon Minkus, l'autre moitié du troisième acte et le deuxième acte composé par Léo Delibes, l'un des grands noms de la musique chorégraphique, Léo Delibes qui écrira également pour l'Opéra de Paris Coppelia et Sylvia, sans parler de son opéra L'Acmé, célébrissime pour l'opéra comique. La Source, voici un extrait du deuxième acte, donc de Léo Delibes, par l'orchestre de l'opéra de Covent Garden, dirigé par Richard Bonning.
Thank you.
scène, pas d'action, mazurka et à l'instant marche, danser et finale. C'était un extrait du deuxième acte du ballet La Source avec une musique de Léo Delibes interprétée par l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden dirigé par Richard Bonning.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Voilà quelques notes qui ont marqué le public de l'Opéra de Paris. C'est un extrait de l'opéra L'Africaine de Giacomo Meyerbeer par l'Orchestre Symphonique de Nouvelle-Zélande dirigé par Darrell Hang. Il s'agissait de la grande scène du Mancenillier, une scène qui est évoquée notamment par Edgar Degas, le plus grand peintre des danses de l'Opéra de Paris, dans un air après le ballet, une toile qui se trouve au musée d'art de Dallas et qu'on a identifié comme étant la mort de Célica sous le Mancenillier. Donc extrait de cette opéra, un dernier grand opéra à la française de Giacomo Meyerbeer, présenté en 1865. Trois ans plus tard, c'est Ambroise Thomas qui s'empare d'un livret de Michel Carré et Jules Barbier, inspiré, lointainement inspiré de Shakespeare. Il s'agit de Hamlet. Nous allons écouter la partie chorégraphique, puisque comme il se doit, Ambroise Thomas avait fait danser la troupe de l'Opéra de Paris pour cette partition de 1868, dont voici une danse villageoise et un entr'acte par l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Antonio de Almeida.
Thank you.
Voilà l'Opéra de Paris au grand complet, dans toute sa splendeur, avec ses instrumentistes, ses danseurs, mais aussi ses choristes, sans oublier les décorateurs et les costumiers. Voilà un extrait de cette Hamlet d'Ambroise Thomas, qui a donc été créé à l'Opéra de Paris en 1868, avec l'Orchestre Philharmonique de Londres, ici dirigé par Antonio de Almeida, dans cette danse villageoise. Nous écoutons donc des partitions qui ont été créées à l'Opéra de Paris et qui ont mis en avant le corps de ballet, la compagnie de ballet, mais également des partitions qui étaient reprises à l'Opéra de Paris avec rajout d'un ballet. C'est le cas de Tannhäuser, créé en 1845 à Dresde et présenté à Paris en 61 avec un ballet supplémentaire. C'était le cas par exemple également de Faust de Charles Gounod, immense succès de 1859, créé non pas à l'Opéra de Paris mais au Théâtre Lyrique et repris 10 ans plus tard à l'Opéra de Paris avec le rajout par Charles Gounod d'un ballet. Un ballet que voici, interprété par l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Richard Bunning. Un enregistrement dans lequel on peut entendre là également la voix de Nicolas Ougiaroff et de Franco Corelli.
Thank you. Thank you. va autour de ce beaucoup.
Ici où?
Arriba rouge, calcache.
Ici!
Arriba rouge, toi, comme tu as chambre de poche.
Arrêtez!
Marguerite! Je sens se dresser ma cheval.
La basse Nicolas Ugarov et le ténor Franco Corelli avec l'Orchestre Symphonique de Londres dirigé par Richard Bonning dans ce ballet rajouté par Charles Gounod en 1869 pour les représentations de Faust à l'Opéra de Paris. Voilà la fameuse marche des Troyens de Berlioz sur laquelle défilent les membres de la troupe de l'Opéra de Paris dans le défilé annuel depuis presque 75 ans. Bonjour Lionel Esparza.
Bonjour François-Xavier Chemchak.
Ça vous dirait pas de défiler avec tout le monde?
Ah, j'adorerais. Mais de quoi on aurait l'air? Ils sont tellement beaux, ces danseurs, ces danseuses. Rien que quand ils marchent, on croirait qu'ils dansent, dites.
Exactement. Il y en sera question également demain pour la suite de cette série avec La Belle Époque.
Eh bien, superbe. À demain François-Xavier.
À réécouter sur francemusique.fr.